Pendant que la dernière table ronde s'installe, pour notre prochaine table ronde, qui concerne donc les concerts et l'édition de jeux vidéo musicaux, l'édition de musique de jeux, je vais y arriver, qui sera donc animée par Florian Agez, nous accueillons Romain Dasnois, concepteur et producteur de concerts, Tarafa aka Liquid, rappeur, cofondateur du label de musique de jeux vidéo Kid Katana Records, et Frédéric Durman Souffrant ne sera finalement pas avec nous ce soir. Merci.
Rebonjour à tous. Donc oui, je suis ravi d'être en compagnie de deux personnes qui ont un parcours assez étonnant sur cette thématique donc des concerts et de l'édition de musique de jeux vidéo. Je vais me permettre de vous présenter un peu plus en détail pour qu'on comprenne bien à qui on a affaire. Donc Tarafa, tu es, comme Emily vient de le dire, cofondateur de Mutant Ninja Records, une maison d'édition indépendante initialement spécialisée dans le hip-hop et l'électro, mais qui a très vite noué des liens, on va dire, qui s'est un peu rapproché de la thématique jeux vidéo, ce qui a fini par se concrétiser en avril de cette année, donc par le lancement d'un sous-label Kid Katana Records, qui est vraiment spécialisé dans le jeu vidéo et dont le premier fait d'arme a été l'édition de la bande originale de Teenage Mutant Ninja Turtles, Shredder's Revenge. Quant à toi, Romain, donc, tu es le cofondateur de Wayo Records, un label fondé en 2012, avec pour objectif de dresser un pont vraiment entre le Japon et l'Occident, on va dire, grâce à des collaborations avec des compositeurs de musique de jeux vidéo, mais pas seulement. Tu as aussi touché à des compositeurs et des compositrices pour le cinéma et l'animation. Ça s'est aussi concrétisé par l'organisation de concerts en France d'artistes comme Masashi Amaozu et Yoko Shimomura, ainsi que l'édition et la distribution de nombreux disques.
Et je précise que Jérémy, qui a participé à la première conférence, est cofondateur avec moi de Wayo.
Et tu es donc aussi le cofondateur d'Overlook Events, producteur de concerts et événements de plus grande ampleur, on va dire, que Wayo Records, avec lesquels tu as entre autres organisé en France et ailleurs dans le monde des concerts tels que ceux de la série Distant Wars, donc les concerts officiels Final Fantasy. Et tu es en ce moment au travail sur la conception du concert Assassin's Creed Symphonic Adventure, donc le concert officiel Assassin's Creed. Pourquoi ça me semblait important de rappeler vos parcours ? Parce que finalement, vous avez tous les deux démarré vos premiers labels à peu près en même temps. Et ce qui est étonnant, c'est que, bon, à l'échelle mondiale, les premières éditions de musique de jeu, les premiers concerts de musique de jeu, on en a parlé beaucoup tout au long de cet après-midi. Au Japon en particulier, ça a commencé très tôt, dès les années 80. Par contre, en France, ça a été beaucoup plus tardif. Vers la fin des années 2000, en fait, c'est arrivé. Et finalement, tous les deux, vous vous êtes retrouvés être en quelque sorte des pionniers sur ce domaine. Et du coup, je voudrais savoir, précisément par rapport à tout cet historique des concerts et de l'édition de musique de jeu, quel a été votre parcours personnel, et est-ce qu'il y a des modèles, on va dire, dont vous vous êtes inspirés pour les aventures dans lesquelles vous vous êtes lancés?
Alors personnellement, alors je pense que on peut pas vraiment qualifier Mutant Ninja et Kid Katana de pionniers, contrairement à Wayo, puisque finalement le label Mutant Ninja ne s'est pas créé à la base pour accompagner ou pour sortir ou pour éditer des musiques des bandes originales et des musiques de jeux vidéo, mais vraiment pour développer des artistes et travailler sur des catalogues hip-hop, électro, et également sur d'autres esthétiques. Même si on a toujours été hyper influencé, évidemment, en tant que gamin des années 80, par les bases de la musique de jeux vidéo, la pop culture de façon générale. Mais finalement, pour Mutant Ninja, c'est quelque chose qui est arrivé plutôt sur le tard. Et honnêtement, de façon assez accidentelle. C'est-à-dire qu'à la base, bon, c'était plus un rêve ou un fantasme qui s'est réalisé grâce à des rencontres petit à petit, et notamment la rencontre avec Cyril Imbert, le boss de Dotemu. On s'est rencontrés un peu par hasard en soirée, on a commencé à parler musique, ça a hyper bien fonctionné. Et lui, il était au début du travail sur Street of Rage 4. Et il avait un peu besoin d'aide sur la musique. Au début, il me demandait un peu des conseils. Il commençait tout juste à bosser avec Olivier de Rivière. Et puis bon, c'est à ce moment-là qu'on a été un peu embarqué dans l'histoire, qu'on a commencé à accompagner la supervision musicale, la production exécutive de certains morceaux, des aspects légaux. Bon, voilà. Moi j'ai démarré ma carrière en tant qu'artiste. en tant que rappeur, d'abord dans un groupe, puis en solo. Assez rapidement, j'ai développé une carrière professionnelle, disons, dans l'industrie musicale, qui m'a permis de toucher à pas mal de choses, de la direction artistique à vraiment à la pure production. Et c'est, comme je le disais, un petit peu par hasard et par accident que je me suis retrouvé à appliquer tout ce que j'avais développé comme compétences vraiment purement techniques et business de la musique au monde du jeu vidéo qui me fascinait et que je voyais de très loin, mais que finalement je n'avais touché qu'en samplant des vieux thèmes des années 80-90 dans ma musique, où mon plus grand fait d'armes c'était d'avoir joué au Ping Awards il y a 10 ans. Mais voilà, c'est finalement ça se concrétise seulement depuis 4 ou 5 ans, d'abord avec Street of Rage 4, puis effectivement avec Shredder's Revenge. Voilà, donc pas quelque chose de très maîtrisé, pas de modèle particulier derrière pour ma part, mais rien de révolutionnaire non plus, puisque finalement on marche sur les traces de plein de labels qui ont initié ça avant nous, quoi.
Bah, oui, alors moi c'est pareil. Alors évidemment je parle de mon expérience personnelle, mais comme je l'ai précisé, je suis pas le seul à avoir monté Wayo, mais on a tous eu une sorte de convergence. Alors ça a été dit à la première conférence, donc c'était sous l'impulsion de Jérémy, hein, je lui rends encore une fois hommage, par le biais de son site et de son forum, où beaucoup d'entre nous dans cette salle se sont connus. Effectivement, moi c'est plus une question de modèle. L'un des tout premiers modèles, alors évidemment je suis joueur de jeux vidéo, j'enregistrais ma musique sur cassette, etc. Bon, le schéma qu'on partage un peu tous. La première chose qui m'a vraiment marqué quand j'étais ado, c'était donc alors c'est une histoire que je raconte souvent, c'est le magazine Player One, avec notamment l'un de ses rédacteurs qui était musicien, qui s'appelle Matt Murdock, de son pseudonyme, ça vous parle peut-être, qui avait sorti un hors-série dédié à la musique de jeux vidéo, avec un CD, en 94, bon, ce qui était quand même assez rare. Tout le monde n'était pas encore équipé à l'époque de lecteur CD. Pour beaucoup, le premier lecteur CD, ça sera la PlayStation. C'était mon cas. Et sur ce CD, il y avait pas mal de musique de jeux vidéo, dont ils avaient acquéri les droits avec les éditeurs de l'époque. Notamment un jeu comme Little Big Adventure, qui était un jeu français. Il y avait une interview du compositeur dans le magazine, donc tout ça, ça m'avait plutôt marqué. Et il y avait des morceaux arrangés par le groupe de Matt Murdock qui s'appelait Mad Murdock, et même un morceau entièrement original. Il y avait un morceau hip-hop, je ne sais pas si tu connais cette histoire, et donc dans cet album on avait de la musique de jeux vidéo et des morceaux arrangés, et ça c'était, il y avait Castlevania par exemple d'arrangé avec un groupe rock, hein, de Matt, et ça c'était assez impressionnant, dans la mesure où évidemment on n'avait jamais vu ça. Et l'un des premiers CD produits aux États-Unis, c'était la même année, c'était avec Tommy Tallarico, qui quelques années plus tard créera Video Games Live, la première tournée de concerts de musique de jeux vidéo. Donc que ce soit en France ou ailleurs, en dehors du Japon, on est au début, au milieu des années 90, et on commence à avoir ce genre d'initiative qui forcément nous passionne, puisqu'on est, on est dedans, on baigne dedans. Et on a évidemment des labels qui commencent à se créer de manière un peu plus, quelques années plus tard, de manière un peu plus totalement spécialisée en musique de jeux vidéo. Je pense notamment à Something Records de Niles Rogers, qui est vraiment un label absolument fondateur, hein. À l'époque, ils annonçaient des chiffres comme 100 000 CD vendus sur Halo. C'était absolument monstrueux. C'était la première fois que la musique de jeux vidéo avait une existence en dehors du jeu vidéo en lui-même, parce qu'il n'y avait pas encore de concerts à l'époque. Il y en avait au Japon, mais
en Occident, il y en avait très très peu.
Oui, il y en avait quand même très peu, même au Japon. Avec la mondialisation et avec Internet, je parlais des forums, etc., mais aussi notre capacité à identifier les compositeurs, de leur donner un nom et puis de commencer à se projeter. Et certains d'entre nous sont allés au Japon, ce qui était mon cas à un moment donné, et l'inspiration est venue directement des compositeurs qu'on rencontrait, où on s'est dit à un moment donné, mais pourquoi pas, vu qu'il n'y a pas de concert, il n'y a pas de CD, bah pourquoi ne pas en faire. Et voilà, c'est ce qu'on a fait.
Okay. Et pour enchaîner tout de suite vraiment dans le vif du sujet, une question très très large et encore une fois volontairement un peu naïve. Tout simplement, quand on édite un disque, enfin, ou un album, on va dire, de musique de jeu, parce qu'évidemment, le disque aujourd'hui n'est plus forcément le format préféré par les consommateurs, mais quand on édite un album ou quand on organise un concert de jeux vidéo, à qui on s'adresse ? Qui est le public cible ?
Alors, sur la partie vraiment sur l'édition pure et sur l'exploitation, on va dire, commerciale d'une BO. D'une BO de jeux vidéo. Aujourd'hui, de mon expérience et en dépit de nos rêves les plus fous, la cible, ça reste quand même avant tout les joueurs du jeu. En tout cas, je parle pour les nouveautés, en l'occurrence. Donc, si je reprends l'exemple de Street of Rage ou plus récemment de Shredder's Revenge, bon, clairement, la cible, ça reste les joueurs du jeu. Donc, même si on... Et c'est une grosse partie de l'ADN de Kit Katana et de notre volonté d'amener la musique de jeux vidéo vers une audience plus large, de créer des ponts entre la musique dite grand public, mainstream, donc des artistes qui ne viennent pas de l'univers du jeu vidéo, mais de le ramener, comme on a fait avec des membres du Wu-Tang sur Shredder's Revenge ou Mike Patton de Face No More. Donc ça crée des petits événements, des petits pop sur les gens qui suivent, qui sont fans du Wu-Tang ou les fans de Mike Patton, mais de façon... très large, le succès de la BO dépend avant tout de la réussite du jeu et du succès du jeu, quoi. Donc c'est-à-dire que malheureusement, je pense, en tout cas, je vois pas de contre-exemple. Une BO, je vois pas de gros succès de BO sur un jeu qui s'est complètement planté, qui est mauvais, qui n'a pas de résonance culturelle et commerciale, quoi. Donc après, il y a tout un challenge justement d'essayer de sortir un petit peu de cette de dépasser ce plafond de verre, et je pense qu'on va clairement dans ce sens-là, mais aujourd'hui la cible, ça reste les joueurs du jeu. C'est peut-être différent pour les événements, je me rends pas compte, mais
pour les albums, oui, effectivement, c'est comme la musique de film, effectivement les gens vont aimer un film, être fan d'un film, ouais, d'un jeu, donc effectivement quand on sort un album, on s'adresse d'abord à ces personnes-là par défaut, hein, et puis c'est difficile de faire vivre ces musiques, même si elles peuvent être de grande qualité, au-delà. Alors, il y a quand même des contre-exemples, que ce soit dans le cinéma ou dans le jeu vidéo, de bandes originales qui vont, même parfois, se vendre plus que les jeux eux-mêmes. Enfin, moi, j'ai une anecdote, on la connaît un peu, pour certains, on la connaît bien, c'est le jeu Ico, qui, au Japon, la bande originale, c'est mieux vendu que le jeu, donc ça, c'est assez intéressant. Après, il faut savoir que la compositrice, Michiru Oshima, elle a aussi une popularité qui fait que son travail a pu être mis en avant plus facilement que si c'était un compositeur, une compositrice inconnue. On a des exemples avec des films comme Titanic, hein. Je pense qu'à un moment donné, même les gens qui n'étaient pas forcément fans de ce film, et donc il y a d'autres exemples, hein, que je pourrais citer, l'une des BO les plus vendues de l'histoire aux États-Unis, je crois que c'est The Woman in Red, ou The Red Woman, je ne sais plus. Je ne sais pas si ça parle à beaucoup de gens, c'est une BO... c'est un super album de Stevie Wonder. Plus personne ne se rappelle du film. C'est l'une des BO les plus vendues de l'histoire des bandes originales aux États-Unis. Donc ça illustre effectivement qu'il peut y avoir des contre-exemples. Et dans le jeu vidéo, bah, ça peut être le cas quand, par exemple, on va attacher un interprète célèbre à un jeu. C'était le cas de Final Fantasy VIII. Alors, je suis désolé, j'ai plus le nom de l'interprète en tête, mais quelqu'un va me la citer.
Fei Wong,
voilà, qui avait vendu des singles à plus savoir qu'en faire. Je pense que la plupart des gens, grande majorité des gens ayant acheté ce single n'étaient pas nécessairement des joueurs. Donc de ce point de vue-là, voilà. Mais ce sont des exceptions, ouais, parce qu'effectivement, on s'adresse avant tout aux joueurs et toutes les tentatives de faire autrement échouent. Hein. On fait des albums piano, par exemple. Hein. Peut-être que je vais un peu vite, mais quand on fait des albums piano, on se dit qu'on pourrait avant tout s'adresser à des amateurs de piano, du répertoire classique, etc. Mais en fait, non, quoi qu'il arrive, on va toucher les joueurs.
Après, il y a peut-être un axe et une possibilité de développement via les plateformes de streaming, aujourd'hui, via les playlists qui permettent aussi de créer un peu de découverte, et d'aller chercher les audiences d'artistes, enfin voilà, comme on parlait d'artistes invités, et d'aller chercher les audiences de ces artistes au-delà de la sphère des joueurs, quoi. Mais oui, effectivement, c'est avant tout la prolongation de l'expérience finalement du joueur, hein, la BO et le fait d'aller acheter la BO ou de l'écouter, quoi.
Et sur les sujets des concerts, alors notamment, je voudrais avoir ta réaction, Romain, par rapport à quelque chose de très intéressant qui a été évoqué pendant l'entretien de Fanny avec Kayane, qui a ouvert cet après-midi. On voit aujourd'hui que les concerts de musique de jeux vidéo commencent à intéresser et à être organisés par des institutions, on va dire, classique, entre gros guillemets. Il y a eu effectivement le cas de la Philharmonie de Paris, mais même en France, il n'est pas le seul. Il y a eu aussi l'Orchestre Symphonique de Bretagne qui a fait quelques initiatives en ce sens. L'Orchestre National de Lyon qui va en faire une l'année prochaine. Très récemment, on a vu aussi la musique de jeu apparaître au Corégie d'Orange. Donc les Corégies d'Orange, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'un des plus grands festivals d'opéra au monde qui se déroule chaque été au Théâtre Antique d'Orange. Et toi, évidemment, tu n'es pas trop dans ce milieu-là, vu que tu es un producteur privé. Mais du coup, quel est ton point de vue par rapport à ces concerts? Et est-ce que d'après toi, il y a vraiment un mélange des publics qui se crée grâce à ça?
Oui, et c'est bien heureusement. Alors effectivement, je pense qu'il y a un mélange d'effets générationnels. C'est tout simplement des gens qui arrivent aux responsabilités dans des orchestres ou dans des institutions qui sont des institutions institutionnelles, pardon, c'est un peu redondant, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est des gens qui ont connu le jeu vidéo en grandissant avec et qui ont moins d'a priori. Moi, il y a quelques années, j'ai présenté une chronique de musique de jeux vidéo sur France Musique. Bon, c'était il y a quelques années, c'était il y a 15 ans. C'était assez pionnier. Bon, c'était une toute petite chronique, hein, mon humble niveau, mais ils n'avaient jamais entendu ça. Mais à ma grande surprise, tous les présentateurs, les animateurs de France Musique avec qui je passais à Radio France, c'est des gens qui étaient parfois pas beaucoup plus vieux que moi et qui connaissaient le jeu vidéo. Et il y avait notamment Émilie Munera, donc si vous écoutez Radio France, qui est une animatrice assez régulière, qui m'avait dit ouais, je connais Final Fantasy, je les ai tous finis, etc. Donc je me rendais bien compte que j'arrivais à point nommé auprès d'une situation en plus de c'est un peu politique, mais à ce moment-là, Radio France avait viré pas mal de vieux producteurs, notamment dans le jazz, et ils avaient pas mal rajeuni l'antenne. Mais c'est des gens qui venaient de la musique classique, mais qui connaissaient un petit peu tous ces univers-là. Et donc il y a cet effet générationnel qui est totalement mécanique, hein, il n'y a pas plus d'explications que ça. Ensuite, il y a, en ce qui concerne la Philharmonie, si je ne me trompe pas, c'était le London Symphony Orchestra qui était venu jouer, qui jouait déjà ce programme auparavant, produit par un producteur allemand qui s'appelle Thomas Bocker, qui fait partie aussi des inspirations de Wayo, hein, bien sûr, qui a produit des très beaux albums et des très beaux concerts comme Symphonie Colisée, Symphonic Fantasies, en Allemagne. Et puis après, il a travaillé avec le London Symphony Orchestra. Et c'est le London Symphony Orchestra qui a aussi joué, entre guillemets, comment dire, de sa popularité pour amener cette musique dans d'autres salles que les salles dont ils sont les résidents à Londres. Et tout ça, effectivement, je le vois forcément d'un bon œil. Et d'ailleurs, quand on allait à ces concerts-là, qu'il n'y en avait pas en France, et qu'on allait à Cologne tous les ans avec quelques-uns qui sont dans la salle, et toi-même d'ailleurs, pour aller voir ces concerts-là, on se rendait bien compte que dans la salle, il n'y avait pas que des joueurs. Il y avait le cliché de la personne âgée qui a son abonnement à la salle, parce que c'est des musiques qui étaient jouées dans les saisons d'orchestre. Donc effectivement, moi je suis un producteur privé, j'aimerais bien jouer dans ces salles-là avec ces orchestres-là, mais bon, on n'est pas positionné, on n'est pas armé pour travailler avec, dans des institutions comme ça. Et c'est une bonne chose parce qu'effectivement, bon, en plus c'était des concerts sans écran, donc du coup c'était vraiment plus de la musique de jeu vidéo. Il faut bien comprendre qu'une musique orchestrée en salle, pour moi, c'est plus de la musique de jeu vidéo. Quand on dit « Ah, Uematsu est fort », etc., bon, on adore tous Uematsu, mais c'est pas Uematsu qui orchestre ses musiques en concert. C'est une démarche avec des gens qui viennent du milieu de la musique, qui ne viennent pas du jeu vidéo. Souvent, pas tout le temps, ces musiques sont jouées sans écran. Et donc, dans la salle, on a des personnes qui allaient voir ce répertoire sans savoir forcément d'où il vient, et en même temps, peu importe d'où il vient, puisqu'il est totalement repensé pour les salles de concert. Donc c'est évidemment des démarches qui sont précieuses, et effectivement, ça s'accélère, parce que ça ne date pas d'hier. Hein. Thomas Bocker à Cologne, son premier concert, c'était pas du Final Fantasy, c'était des musiques de jeux européens, mais ça a presque 20 ans.
C'était un concert Chris Welsbeck.
Voilà. 20 ans, je ne sais plus, 18, 19 ans. Bon, effectivement, ça ne date pas d'hier, ces démarches-là. Mais ça a tendance à s'accélérer, et évidemment, d'un point de vue purement culturel, pour les compositeurs et pour la musique, bah, c'est une bonne chose.
Tu as commencé à parler de la question des arrangements, on y reviendra plus tard dans cette table ronde. Mais avant toute chose, je voudrais passer par le dialogue avec les compositeurs et surtout les ayants droit, qui est évidemment un sujet assez critique dans vos secteurs d'activité. Voilà, vous devez évidemment aller parler avec ces gens, les convaincre de s'embarquer dans ces projets avec vous, peut-être. Et Tarafa, toi en particulier, chez Mutant Ninja, tu es notamment en charge de l'A&R, ce qui est un métier qui n'est pas forcément connu de tout le monde. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consiste ?
Oui, alors bon, c'est effectivement un terme pas très connu et assez pompeux en réalité, mais que voilà que j'utilise quand même sur ma carte de visite, mais qui en réalité recouvre plein de choses parce que bon, quand on travaille quand on est à la genèse d'un nouveau jeu, bon voilà, il y a tout un travail de supervision musicale qui était un peu une activité qui était un petit peu évoquée en filigrane dans une des précédentes tables rondes, mais où on va vraiment travailler avec le studio ou avec l'éditeur du jeu dans les premières étapes de son développement pour l'aider à trouver le bon compositeur, briefer le compositeur, le cas échéant faire des démos, essayer de faire des premiers tests pour vraiment s'assurer du bon fit et de la pertinence de la vision artistique des uns et des autres. Ça va ensuite également donc, nous avec Mutant Ninja et Kid Katana, on a une approche comme je le disais qui est beaucoup basée également sur les invités, et ramener donc des invités du monde de la musique à travailler sur un ou deux morceaux dans le jeu et donc dans la BO du jeu. Donc pareil, ça va être travailler avec ces gens-là. Donc c'est vraiment de la direction artistique pure. Enfin, si je reprends encore l'exemple du morceau du Wu-Tang sur Shredder's Revenge, donc c'est le combat contre Shredder, sans vous spoiler, mais je pense que voilà. Donc c'est Raekwon et Ghostface qui sont deux figures du Wu-Tang, qui est des personnages assez hauts en couleur et pas forcément évident à diriger au jour le jour quand il faut travailler sur le morceau. Mais donc il y a eu un travail préliminaire avec T-Lopez, donc le compositeur de la musique du jeu, qui a essayé donc de faire un beat qui était qui devait à la fois sonner hip-hop et sonner hip-hop 90s et correspondre à un morceau Wu-Tang crédible et qualitatif, mais en même temps s'intégrer au jeu et s'intégrer à l'univers hyper coloré et plutôt léger quand même des un peu funky des Tortues Ninja. Donc il y avait eu un équilibre à faire, et donc ça c'est des discussions, c'est des tests, c'est des échanges de références, des démos à ne plus savoir qu'en faire. Il y a également le travail sur les paroles de Raekwon et Ghostface, où bon, voilà, tout s'est fait à distance hein, sur cette période-là. En plus on était en plein Covid, mais les gars étaient nous envoyaient des captures d'écran de leur téléphone avec les lyrics qu'ils étaient en train d'écrire, et donc bon, fallait leur dire bon, là on est quand même sur un jeu plutôt très familial et avec Nickelodeon derrière qui valide tout. Donc il fallait trouver les bons mots pour expliquer à Ghostface que ce mot-là, non, enfin, ça pouvait pas rentrer dans ce jeu. Donc voilà, c'est tout ce genre de choses, vraiment sur la partie purement artistique, quoi. Voilà.
Et alors juste pour préciser, parce que je crois pas qu'on l'ait fait, le sigle A&R, ça veut dire artiste et répertoire. Voilà.
Oui. Et d'ailleurs, juste pour préciser, dans le jargon musical, il recouvre pas mal d'activités assez différentes. Donc moi, je l'utilise vraiment pour la partie purement de direction artistique et de suivi artistique d'un projet. Mais il est également utilisé, par exemple, en maison de disques pour désigner des personnes qui vont s'occuper d'aller signer des nouveaux artistes, donc d'aller sourcer, d'aller dénicher, d'aller faire signer des jeunes artistes en major ou ce genre de choses. Donc, ce qui n'est pas mon cas dans cette activité particulière.
Et toi, Romain, ces discussions avec les ayants droit, tu dois les avoir aussi pour donc l'organisation de concerts. Donc, oui. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça se passe, les discussions avec un éditeur quand tu veux inclure leur musique dans un de tes concerts ?
Alors, c'est les droits musicaux sont c'est compliqué. Il y a plusieurs types de droits musicaux de manière générale dans le droit musical. Et chacun peut le vérifier assez facilement, effectivement, en allant sur les sites des sociétés de gestion collective comme la SACEM, où on voit que c'est il y a vraiment des compartiments de en fonction de ce qu'on veut faire de la musique. Donc c'est, après je vais pas tout résumer, mais c'est de la synchronisation, c'est de la reproduction mécanique pour faire des CD par exemple, et donc les performances scéniques. Donc quand on veut travailler sur une licence, que ce soit d'ailleurs un concert, un CD, ou même faire une figurine, ou faire du... en tout cas, ce qu'on va appeler un produit dérivé, c'est-à-dire qu'on a un produit de base qui est un film ou un jeu vidéo, et on veut faire quelque chose d'autre dérivé de ce produit-là. Donc oui, de la musique, ça peut paraître dépréciatif dit comme ça, mais c'est un produit dérivé. Quand on l'exploite à part, hein, encore une fois, évidemment, la musique fait partie intégrante d'un jeu, mais quand on fait un concert ou un CD, ça reste... et souvent c'est des formulaires de merchandising hein, qu'on reçoit quand il faut remplir des formulaires donc en fonction des droits que l'on souhaite la discussion est éventuellement on peut être amené à discuter avec différentes personnes puisqu'il y a des droits de licence tout simplement, utiliser le nom de la licence, utiliser des logos, utiliser des images et ensuite on a la discussion sur les droits musicaux. Et souvent dans le jeu vidéo, les droits musicaux ne sont pas gérés par des sociétés de gestion collective. Donc, c'est souvent le cas au Japon. Très peu de musique de jeux vidéo sont déposées en fait tout court. Comme ça a été dit dans la première conférence, on peut aller vérifier des informations sur le site de la JASRAC ou sur tous les sites de sociétés de gestion collective, mais souvent les musiques n'y sont pas déposées, hein, c'est le cas des musiques de Nintendo hein, par exemple, où absolument rien n'est déposé. Donc là effectivement il y a une discussion avec l'ayant droit, mais parfois la discussion peut se faire directement avec donc, les sociétés de gestion collective comme la SACEM. Donc c'est pratiquement du cas par cas. Et quand on discute avec les ayants droit, alors je ne me rappelle plus de l'intitulé exact de ta question, ça dépend avec qui on discute. Il y en a certains qui ne veulent pas discuter, hein, comme Nintendo, il y en a certains qui le font, enfin qui discutent avec tout le monde, donc c'est très facile. Et en même temps, du coup, on est beaucoup plus en concurrence avec les autres. J'ai pas de réponse type à donner, puisqu'effectivement, ça dépend vraiment de l'interlocuteur, souvent du pays où on est. Et puis, pour reprendre le cas de Nintendo, ça m'est arrivé, je suis peut-être l'un des seuls au monde, hein, pardon, pour l'instant humilité, à avoir travaillé avec Nintendo officiellement. C'était pour le Paris Games Week symphonique qu'on a créé en 2017, sous l'impulsion du CEL. Comme Nintendo fait partie du CEL, ils étaient obligés de collaborer avec nous. Et ensuite, pour l'anecdote drôle, je suis pas censé le dire, mais franchement, on s'en fiche. Et ensuite, donc les interlocuteurs de Nintendo que j'ai eus, des japonais, je les ai évidemment sollicités après ce projet-là, donc ils me répondaient quasi quotidiennement. Hein. Et ensuite, ils ont juste fait l'autruche sur toutes mes autres questions et ils m'ont plus jamais répondu. Voilà, donc ce qui donne la mesure du problème.
On va revenir maintenant donc sur la question des arrangements et plus généralement de l'adaptation de la musique, on va dire, au concert. C'est une évidence hein, que la musique de jeu, on peut pas la prendre telle quelle du jeu et puis la jouer comme ça en concert. Et du coup, tout simplement, Romain, toi, comment tu abordes ce problème pour tes concerts, sachant que là, je crois savoir que t'es pas toujours libre de tes mouvements là-dessus.
Non, pas du tout. Alors, je fais tout type de concerts. Je veux vraiment le préciser. Je fais beaucoup de musique de film, musique de un petit peu de musique de série télé, de la musique de jeux vidéo. À partir du moment où la musique s'émancipe de son œuvre d'origine, le travail est le même. Donc c'est pour ça que je le souligne. Alors parfois c'est très facile. Quand on joue du John Williams, déjà les partitions pour orchestre sont disponibles dans le commerce. Pas toutes, mais une bonne partie. Ensuite les autres, il suffit de faire des transcriptions. Donc on parle pas du tout d'arrangement, hein, c'est juste quelqu'un qui, avec ses oreilles et son stylo, va littéralement retranscrire la musique comme une dictée, pour ensuite être édité en partition. Donc là c'est facile. C'est ce qu'on a fait sur le Paris Games Week Symphonique, justement, il y avait pas mal de musique de jeux modernes qu'on a joué, où originellement les musiques étaient écrites pour orchestre. On avait reçu quelques partitions, mais on a fait beaucoup de relevés à l'oreille, parce que parfois on nous a pas envoyé les partitions. Donc là, c'était vraiment des transcriptions. Il n'y avait pas grand-chose à changer pour que la musique soit jouée ensuite par l'orchestre qu'on avait sur scène. Et parfois, il y a une vraie notion d'adapter la musique quand cette musique est, par exemple, un petit peu vieille, c'est une musique rétro, etc. Où là, effectivement, on va faire intervenir des notions d'orchestration. Donc on va prendre une musique initialement pour, une musique de Super Nintendo, par exemple. Et on va la faire jouer par 70 musiciens sur scène. Donc là, il y a un travail d'orchestration qui n'est pas forcément un travail d'arrangement, parce que ce n'est pas la même chose. Et parfois, on va peut-être essayer de changer un peu la manière dont la musique est structurée. On va essayer de faire en sorte que la musique dure un peu plus longtemps ou d'apporter des ponts qui n'existent pas initialement dans les musiques originelles. Donc là, c'est de l'arrangement. Et ça, l'arrangement, on est très rarement libre de le faire. Et souvent, on n'a même pas du tout le droit de le faire. Et d'ailleurs, c'est dans le droit musical. N'importe qui peut jouer n'importe quoi en concert à partir du moment où il ne change pas la nature de la musique, qui est explicitée par trois notions fondamentales de la musique. Si je ne me trompe pas, c'est la mélodie, les harmonies et le rythme. Donc si l'ayant droit nous en donne l'autorisation, évidemment, on est amené à le faire. C'est ce qu'a fait le producteur Thomas Bucker, donc sur ses productions, l'une des premières qu'on a vues, je crois que c'était le Symphonic Fantasies, je crois. Il y avait Final Fantasy, Chrono Trigger, Secret of Mana et Kingdom Hearts, hein, c'est ça. Et en plus, les compositeurs étaient là. Et là, il y avait un vrai travail exceptionnel avec les arrangeurs, puisqu'ils ont repensé la musique pour les salles de concert. Et ça, c'est une démarche qui existait dans la musique de jeux vidéo, on en a cité, mes prédécesseurs, on les ont cités sur scène, notamment le Final Fantasy VI dont parlait Jérémy en album Le Grand Finale, qui était repensé, mais à tel point que le compositeur a renié un petit peu, a complètement renié ce travail. Mais ça existait surtout dans la musique de film. Notamment, je cite toujours cet exemple qui pour moi est un exemple très parlant pour sa qualité, c'est la Symphonie Seigneur des Anneaux, qui a vraiment été totalement repensé pour les salles de concert et qui est une vraie expérience différente des bandes originales. Et voilà. Mais ça, c'est vrai qu'on a rarement la liberté de le faire.
Mais du coup, par rapport à ce que tu rappelais là, sur le droit d'adaptation et d'arrangement, techniquement, tu pourrais faire tout ce que tu veux sur le répertoire Nintendo si tu ne touche pas à l'œuvre originale et que tu la gardes telle quelle.
Non, parce que ce droit est délivré par les sociétés de gestion collective, Nintendo n'ayant pas inscrit ses musiques dans les sociétés de gestion collective, on doit leur demander leur autorisation écrite. Évidemment, vous avez sûrement vu des albums, peut-être même des concerts, avec des musiques de Nintendo jouées. Alors, à part celui qu'on a fait, avec le sel, mais parce que c'était le sel, et à part effectivement les concerts officiels comme la tournée Zelda qui avait été faite il y a quelques années, toutes les personnes qui le font en fait n'ont pas le droit de le faire.
D'accord. Okay.
Enfin, sauf s'ils ont l'autorisation de Nintendo, mais on sait que Nintendo.
Non, mais après, le son est muté.
Après, c'est une autre question, mais effectivement, Nintendo laisse faire, donc voilà.
Je voudrais en profiter pour partir sur une petite tangente qui va me permettre de rebondir sur un sujet qui a été abordé dans la première table ronde, encore une fois, savoir le rapport de la musique de jeu à l'orchestre symphonique, parce que c'est vrai que quand on parle de concert de musique de jeu, on a naturellement tendance à penser à l'orchestre symphonique, ou en tout cas à des formations classiques. C'est un peu vraiment devenu l'image d'épinal du concert de musique de jeu. Pourtant, la musique de jeu, on l'a dit aussi précédemment cet après-midi, en soi, c'est pas un genre, c'est juste c'est un exercice, en gros, mais après, dans lequel on peut injecter tous les genres qu'on veut et toutes les sonorités qu'on veut. Et là-dessus, j'aimerais bien avoir votre point de vue là-dessus, et en particulier le tien, Tarafa, parce que précisément, toi, tu ne viens pas du tout de cet univers classique. Est-ce que comment tu le perçois, ce biais?
Alors, je sais pas trop. Il y a quand même pas mal aussi de. Enfin, il y a de plus en plus d'initiatives qui ne sont pas purement musique classique d'orchestre. Je sais pas. Je pense qu'il y a eu une tournée il y a quelques années de Yuzo Koshiro et Motohiro Kawashima qui ont tourné dans le monde entier pour rejouer un petit peu toute leur BO culte. Mais sinon, enfin, ton observation est assez juste. Mais je me rends pas compte. En fait, moi, ne venant effectivement pas de cet univers. Je me demande parfois si c'est pas également la réponse à une défiance que peuvent avoir les institutions, les pouvoirs publics par rapport au monde du jeu vidéo, et peut-être donc un besoin de reconnaissance plus important, ou une problématique business parce que c'est aussi plus facile, je sais pas, de ramener sa famille et sa grand-mère à...
C'est très pertinent, oui, tout à fait.
Donc c'est plus des questions moi que je me pose, enfin, et que du coup je relance.
J'ai un exemple en tête. Il y a quelques années, on a fait une mini tournée avec Akira Yamaoka, le compositeur et producteur de Silent Hill. C'était pas du tout orchestral, mais dans les pays où il marche le mieux, dans les pays d'Europe de l'Est et par exemple en Russie, bah, ça marchait tellement qu'à un moment donné, ils ont fait les concerts avec un orchestre derrière. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est vrai qu'on a l'impression que tout va se ramener à l'orchestre. Et donc là, il y a plusieurs raisons de clés de compréhension. Ça a été dit à la première conférence, je crois, par Aurélien, c'est que déjà, il y a un côté où on cherche à anoblir quelque part le jeu vidéo. Et dans cette démarche d'anoblir ce qui était le cas du cinéma, du jeu vidéo, des séries télé... ou même de la publicité, enfin tout ce qui est de l'ordre de l'audiovisuel, l'orchestre dans notre culture européenne, mais maintenant mondialisée, hein, même au Japon, a vraiment une fonction d'anoblissement. Voilà, il y a quelque chose qui fait que quand on a un orchestre, c'est mieux. Alors avec des guillemets, parce que c'est pas mieux d'avoir un orchestre que d'avoir un set rock comme on l'a fait avec Yamaoka ou hip-hop ou tout autre genre. Il y a un jeu qui s'appelle Fury avec des groupes électro super. Ils ont fait des concerts et là aussi c'était un exemple, mais c'est quand même assez rare. Voilà, c'est vrai que on va avoir tendance à recevoir des demandes pour orchestrer, et ça plaît énormément aux ayants droit ou même aux compositeurs. Cette idée d'une musique qui va prendre une autre dimension et va littéralement transcender sa condition originelle, surtout quand c'est des musiques un peu vieilles, des titres où effectivement les sonorités utilisées n'étaient pas forcément très modernes. Ça, c'est le côté l'anoblissement, etc. On en pense qu'on veut. La réalité. On s'y est confronté avec Wayo. On faisait des concerts à taille humaine. On faisait des concerts de quatuor. L'ensemble le plus élevé qu'on a fait, c'était avec Yoko Shimomura. On avait 7 ou 8 musiciens sur scène. Donc on est sur de la musique de chambre. Mais on avait un plafond de verre qui était vraiment... on le sentait tout de suite. C'est-à-dire que ça va attirer les fans... les fans, je ne sais pas comment le formuler. On va attirer vraiment la... le sommet de la pyramide des fans, c'est-à-dire vraiment on remplissait
vraiment une niche, quoi.
La niche de la niche. Mais quand je fais le concert Final Fantasy avec un orchestre, et le prochain concert Final Fantasy pour les 35 ans, par exemple, Yoko Shimomura est invité. Donc finalement pour le fan, c'est très virtuellement, c'est les mêmes musiques, c'est les mêmes compositrices. L'expérience est juste différente. Bah là, on sent qu'il y a beaucoup plus d'intérêt. Les gens, et je parle du grand public, le grand public, évidemment les grands fans, les fans vraiment qui ne vivent que pour ça vont faire tout, mais on a toute cette zone floue entre le fan qui a joué à certains jeux mais pas tous, qui est fan de cette licence mais sans plus, ou alors qui veut amener sa copine ou sa maman comme tu disais, et ça effectivement on va faire cette démarche plus facilement quand on propose un orchestre. On peut que le constater, et ça se vérifie vraiment. Et la dernière chose, et tu le disais, c'est économique. On a beaucoup plus... Quand on fait un concert de musique... Là, par exemple, je fais des récitals piano. C'est difficile de faire des récitals piano en dessous de 30 euros la place dans un pays comme la France. Quand on fait un concert orchestral, on peut commencer à 30 euros la place. On n'est pas subventionné, hein, on n'est pas le London Symphony ou la Philharmonie. Donc les billets vont aller entre 30 et 100 euros. Là, je dis très vaguement, hein, ça dépend évidemment des concerts et des coûts associés. Mais on justifie beaucoup plus facilement des prix élevés quand il y a un orchestre sur scène. Évidemment, on paye plus de gens, mais en vérité, il y a plein de frais fixes qui fait que même s'il n'y avait que 4 personnes sur scène, en vérité, les prix des places ne changeraient pratiquement pas. Parce qu'il faut payer des licences, il faut payer la location d'une salle, il faut payer un travail d'arrangeur, et puis à la minute, que ce soit pour un quatuor ou un orchestre de 70 personnes, c'est la même chose. C'est pas tout à fait la même chose dans la réalité, mais en termes de tarifs, on n'a pas des économies d'échelle qui vont du simple au centuple. Arranger du piano, c'est parfois même beaucoup plus compliqué que d'arranger pour orchestre. Bon, encore une fois, tout ça, c'est des réflexions rhétoriques, c'est beaucoup plus complexe, mais fondamentalement, la question de l'économie, elle est aussi là. Ce qui fait que, voilà, je suis désolé, je suis un peu long, je privilégie les concerts orchestraux parce que j'aime ça, parce que c'est super chouette de travailler avec des orchestres, parce que ça permet d'attirer plus de gens et de valoriser un peu plus tout ça aussi. C'est important parce qu'il y a beaucoup de gens à payer, et notamment des ayants droit.
Pour ma dernière question, je voudrais revenir sur le sujet de l'édition et encore une fois sur une ouverture un petit peu vers l'avenir. On a vu quand même dans les années 2010 en particulier ce marché exploser de façon assez spectaculaire, à tel point qu'aujourd'hui, quelque part, c'est limite l'exception qui confirme la règle quand un jeu sort sans avoir sa bande originale associée, en particulier grâce aux plateformes de streaming qui permettent une distribution beaucoup plus facile et moins coûteuse. D'après vous, qu'est-ce qui reste à faire sur ce marché ? Est-ce qu'il y a encore des manières d'innover vraiment dans la façon dont on distribue et on publie la musique de jeux vidéo ?
Oui, je pense qu'il y a des façons d'innover et des pistes, mais il y a aussi des façons d'améliorer les choses. Tu parles du streaming, mais le vinyle qui porte énormément le marché de la BO aujourd'hui. Pas que de jeux vidéo d'ailleurs. Et tu parlais tout à l'heure
de vinyle qui aujourd'hui en valeur dans l'industrie de la musique de façon générale a pris le dessus sur le CD d'ailleurs.
Oui, mais je pense que je suis même quasiment sûr que sur le marché très spécifique, très particulier de la musique de jeux vidéo et les BO de jeux vidéo, la part de physique et de vinyle aujourd'hui est beaucoup plus importante que celle du digital. Ce qui n'est absolument pas vrai sur le marché de la musique de façon globale. Donc il y a vraiment une distorsion sur le marché de la BO, encore une fois pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, parce qu'on s'adresse avant tout aux joueurs qui veulent prolonger leur expérience de gamer et qui vont aller chercher du produit dérivé comme tu le disais, qui vont quand t'es fan d'un jeu ou d'une certaine licence, tu vas aller acheter tout ce qui va avec et qui te rappelle les moments passés sur le jeu, qui permet de prolonger ça. Et on achète finalement un vinyle comme on achèterait un t-shirt ou un mug pour beaucoup. Donc ça signifie qu'il y a une très grosse marge de progression sur le digital, effectivement, d'autant plus parce que c'est là que les choses se passent. Et encore une fois, si on veut sortir de plus en plus de cette niche qui peut être très très large de l'univers des joueurs, c'est quelque chose à ne pas négliger. Nous, on se pose pas mal de questions parce que du coup, le vinyle maintenant, c'est une grosse partie de notre activité, de notre économie. C'est pas forcément ce qu'il y a de plus vert non plus. Y a pas mal, on se pose beaucoup de questions, on discute pas mal avec notre distributeur physique, qui a essayé de trouver à l'avenir des alternatives qui sont un peu moins pires pour la planète, quoi, disons. Et je pense que ça, c'est des choses qui vont, j'espère qu'on va réussir à faire bouger dans le bon sens, mais c'est encore un petit peu figé, quoi. Et puis après, de façon générale, c'est des choses, c'est ramené aussi dans les castings de toutes les équipes qui bossent sur la musique de jeux vidéo externes et les invités qu'on ramène, c'est aussi ramener plus de diversité à tous les niveaux. Enfin voilà, je pense, il y a plein de pistes d'amélioration pour nous sur ces différents niveaux, quoi.
Merci beaucoup, messieurs. Je regarde Émilie, est-ce qu'on a le temps pour quelques questions ?
Malheureusement, non, parce qu'on est arrivé au terme de nos 4 heures. Je suis désolée, mais ce soir, on doit libérer la salle parce qu'on a un concert, justement, du No Limit Orchestra. Donc, c'est pour la bonne cause que je coupe court aux questions, pour que les musiciens puissent se préparer tranquillement. Donc, je vous remercie tous les trois. On peut les applaudir quand même. Merci encore à vous toutes et à vous tous d'avoir été là avec nous cet après-midi. On espère que ça vous a plu. Je vous rappelle qu'en sortant, vous avez encore, je crois, quelques exemplaires de JV Le Mag, même si ça a été pillé déjà et c'est super, c'était fait pour ça. Et on remercie bien sûr donc JV Le Mag et Libération qui étaient nos partenaires, qui sont nos partenaires sur le festival. Je vous rappelle aussi l'existence de ces petits tickets que vous pourrez retrouver à la sortie qui vous permettront d'aller directement voir nos événements, enfin ce qui se passe dans le salon jeux vidéo et au niveau 1 de la bibliothèque sans avoir à ressortir, prendre un ticket BPI et faire la montée jusqu'au deuxième étage. Voilà, si vous voulez faire vivre tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui, n'hésitez pas à aller nous voir et à regarder le programme qui demeure jusqu'à lundi prochain pour Press Start. Merci beaucoup.